Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Savoir écrire avec un stylo, en lettres cursives, en lettres attachées pour faire simple, est-ce dépassé à l'heure de la tablette, de l'ordinateur et du smartphone? Les Finlandais, considérés comme les meilleurs de la classe en Europe, le pensent. En 2016, les pleins et les déliés seront définitivement arrangés du côté des antiquités. Pour rentrer dans la modernité, il suffit de savoir tracer des lettres, certes, mais surtout de savoir taper sur un clavier. À Helsinki, Pauline Curté.
C'est un véritable tournant prévu pour la rentrée 2016, dans moins de 2 ans. Et pour Mina Harmanen, représentante de l'Office national de l'éducation, à l'origine du projet, effectuer ce changement majeur dans les écoles finlandaises est devenu, dit-elle, nécessaire au XXIe siècle. L'Association des enseignants de la langue natale, une autorité dans le pays, s'est aussi satisfaite de cette décision. D'après sa présidente, apprendre aux élèves à différencier lettres minuscules et majuscules est bien suffisant. Mais cette décision n'a pas été accueillie favorablement par tous les Finlandais. D'un côté, les établissements scolaires ont rappelé qu'ils auraient besoin d'argent pour s'équiper massivement en ordinateurs, et ce dans un contexte de coupes budgétaires au niveau national. De l'autre, des parents d'élèves et des professeurs s'inquiètent. Ils craignent une augmentation des inégalités d'apprentissage entre les enfants, certains pouvant s'exercer sur un ordinateur à la maison, d'autres non. Pour parer aux critiques, le ministère de l'Éducation promet que les professeurs seront libres, s'ils le souhaitent, de continuer à enseigner l'écriture cursive, à condition tout de même qu'ils donnent la priorité à l'écriture script. À ceux qui rappellent que l'écriture cursive permet aussi de développer la créativité des enfants, on promet que des cours de dessin ou de travaux manuels seront mis en place pour répondre à ce manque. Mais les bons vieux stylos à encre, eux, resteront bien dans les tiroirs.
C'est un symbole de la défense des droits de l'homme qui est aujourd'hui menacé en Russie. L'association Mémorial, créée à l'époque de la perestroïka pour entretenir la mémoire de la répression soviétique, saura demain si elle est sous le coup d'une dissolution. D'après le Kremlin, son organisation administrative n'est pas conforme à la Constitution, à moins que Mémorial ne soit considérée comme gênante pour le pouvoir. À Moscou, Étienne Bouche.
Il y a 2 mois, 250 universitaires français ainsi que de nombreux étrangers diffusaient dans la presse une lettre ouverte adressée au ministre russe de la Justice. Le collectif exprimait son soutien à l'ONG Mémorial. C'est dire l'intérêt que portent les chercheurs au travail de cette association fondée à l'époque de la perestroïka. Mémorial s'est donné pour mission de raconter l'histoire de la répression politique en URSS. Alexandra Polivanova, en charge des programmes culturels.
Nos collègues les plus anciens, qui ont commencé le travail il y a 25 ans, ont d'abord publié une annonce. Mémorial collecte tous les témoignages relatifs au destin tragique des victimes de la répression en Union soviétique. Et les gens ont créé les archives du peuple. Ils ont apporté des papiers et toutes sortes de documents.
Dans les locaux moscovites de Mémorial, Alexandra a conçu une exposition consacrée aux lettres laissées par les prisonniers politiques. Aujourd'hui encore, évoquer les crimes de l'URSS reste très sensible. Les commentaires critiques sont parfois perçus comme antipatriotes. Natalia Petrova travaille ici depuis 3 ans. Pour elle, ce travail de mémoire est essentiel.
Je considère que c'est très important qu'une association s'intéresse à l'histoire, entretienne la mémoire. Il me semble que dans la société, on ne prête pas suffisamment attention à cette question. Et j'aimerais qu'on en parle davantage afin d'éviter que les mêmes choses se répètent.
Au-delà du travail historique, Mémorial est la principale association de défense des droits de l'homme en Russie. Elle a notamment enquêté sur les crimes commis dans le Caucase. Elle se trouve aujourd'hui confrontée à des problèmes juridiques. Les autorités russes estiment qu'elle n'est pas en conformité avec la Constitution. Il s'agit en fait d'un réseau d'une cinquantaine d'associations régionales, chacune ayant été créée de manière autonome. Ces structures fonctionnent indépendamment et trouvent elles-mêmes leurs sources de financement. Mais la justice exige une gestion plus centralisée et a demandé la liquidation de la structure actuelle, un moyen de faire pression, selon Natalia.
L'affaire est présentée comme purement technique. La structure de l'organisation ne serait pas en conformité avec la loi. L'association existe depuis 25 ans. Sa structure n'a pas changé. Et curieusement, le ministère de la Justice ne se manifeste que maintenant. À l'évidence, cette décision est liée au changement de la situation politique.
En Russie, l'enregistrement des ONG auprès de l'État est complexe et elles sont très contrôlées. Les autorités se montrent très méfiantes à l'égard de ces structures indépendantes de l'État. Yann Rachinski, l'un des responsables historiques.
Pour moi, il s'agit d'une affaire politique dans la mesure où elle révèle à quel point l'État ne comprend pas le concept de société civile. Il considère que tout doit être vertical, tel que le conçoit le président Poutine, et le ministère de la Justice applique cette logique. Il se voit comme le supérieur hiérarchique d'une société civile qui se doit de rendre des comptes. À mon avis, ce n'est pas une commande venant d'en haut, mais plutôt du zèle des fonctionnaires. Ils en font trop pour prouver qu'ils travaillent efficacement.
C'est durant la perestroïka et les années 90 que l'activité de Mémorial a été la plus prolifique, au moment où les archives du Parti communiste ont été ouvertes. Vladimir Poutine les a ensuite refermées. Il a par ailleurs renforcé le contrôle des ONG. Pour Yann Rachinski, l'activité de Mémorial crispe un pouvoir incapable de s'interroger sur lui-même.
Je dirais qu'il s'agit d'un réflexe, d'un culte du secret hérité de la période soviétique. Ne dis rien à personne, ne montre rien à personne, en toutes circonstances. En fait, nous n'avons pas eu de grand nettoyage, il n'y a pas eu de changement de cadre dans les ministères. Du coup, ces structures se protègent, défendent leur dignité professionnelle. D'un côté, il y a l'État, de l'autre, ses ennemis. L'État a toujours raison, et il est impossible de reconnaître ses erreurs, car l'État en serait affaibli.
La plupart des ONG en Russie reçoivent des financements étrangers, c'est pour cette raison que le pouvoir les perçoit comme des relais d'influence hostiles au Kremlin. À Moscou, on estime qu'elles ont inspiré les révolutions dans les pays voisins, en Géorgie et en Ukraine. Cet été, Mémorial a été contraint de s'inscrire sur le registre des agents de l'étranger, qui répertorie les associations recevant des fonds étrangers et exerçant, selon les autorités, une activité politique. Selon Yann, les ennuis de Mémorial illustrent la manière dont s'exerce le pouvoir en Russie.
Nous avons un cadran inversé. Dans le reste du monde, la société civile s'emploie à contrôler l'activité des fonctionnaires. Comment lutter contre la corruption et faire en sorte qu'elle disparaisse? Chez nous, c'est l'inverse. L'État considère qu'il doit surveiller la société. Les associations doivent se justifier en permanence, 3 fois, 4 fois. Incontestablement, cette tendance se renforce depuis 2011 et de façon très rapide.
Le ministère de la Justice assure qu'il ne cherche pas la fermeture de Mémorial, mais sa mise en conformité avec la loi. La Cour suprême doit rendre sa décision le 17 décembre.
Et la Russie, dont l'embargo sur les fruits et légumes n'en finit pas de déstabiliser le marché agricole européen. On a déjà beaucoup parlé du patriotisme des consommateurs en Pologne ou en Belgique qui espèrent ainsi compenser les baisses d'exportation. En Bulgarie, les maraîchers ont bien peur de ne pas se relever de ce dernier épisode. La filière était déjà très fragilisée par la concurrence européenne. Avec l'embargo russe, c'est le coup de grâce. Reportage à Sofia de Damien Vedenicharov.
Ce dimanche, dans un des plus grands marchés de Sofia, les vendeurs appâtent les clients qui remplissent leurs sacs de tomates, de concombres, de pommes de terre. En passant entre les étals, on remarque une tendance. Les produits bulgares sont mis en valeur. Les cartes sont plus grandes, leur origine est soulignée ou encadrée à la main. Les fruits et les légumes bulgares sont réputés pour leur goût et leur qualité, comme le confie un couple de jeunes, les sacs pleins à craquer aux mains.
Tout le monde sait que les fruits et les légumes bulgares sont très bons. Je préfère acheter un produit qui vient d'ici plutôt qu'un produit qui a traversé toute l'Europe.
Mais ce patriotisme à la consommation connaît des dérives. Il arrive qu'on fasse passer des légumes importés pour des produits bulgares. Un peu comme les fausses Rolex, les fausses Nike ou les faux Chanel qu'on peut également trouver ici. Du moins, c'est ce que soutient ce marchand.
Il y a beaucoup de contrefaçons. On dit que les pommes de terre sont bulgares, par exemple, alors qu'elles sont importées. Ici, elles sont vraiment de Bulgarie. C'est pour ça que nous avons des clients fidèles qui préfèrent payer plus, mais qui sont sûrs d'avoir des légumes bulgares. Mais on ne peut pas tout avoir. Qui produit des tomates ou des poivrons en Bulgarie ? Personne.
Le maraîchage bulgare est en effet une espèce en voie de disparition. Cela fait des années qu'il n'est tout simplement pas en mesure de faire face à la concurrence européenne, imbattable sur les prix. Un tour dans les grandes surfaces suffit. Les chaînes internationales ne proposent que très peu ou pas de fruits ou de légumes bulgares. La plupart des tomates, des concombres, des pommes ou des poires proviennent d'Espagne, d'Italie, de Pologne, de France. La production agricole bulgare est beaucoup plus chère. Le prix des tomates espagnoles tourne autour d'un euro le kilo, par exemple, alors que les tomates bulgares sont deux fois plus chères. La raison, des subventions européennes minuscules par rapport aux anciens pays membres, explique Tsvetan Tsikov, maraîcher.
À l'étranger, les exploitants reçoivent des subventions de l'ordre de 150, 200, 250 euros par hectare. Ici, on a droit à 15 euros. Et là, c'est intenable. Un autre exemple. Les aides accordées par l'État bulgare aux producteurs de fruits sont plafonnées à 1 million d'euros. 1 million pour tous les exploitants bulgares.
Cette situation ne date pas d'hier. En 15 ans, la surface des cultures maraîchères a chuté. Il y avait 46 000 hectares de culture en 2000. En 2014, il y en a 4 600. À cela vient maintenant s'ajouter l'embargo russe. Les effets se sont fait immédiatement sentir, affirme Tsvetan Tsikov.
Les ventes sont en chute libre. Elles sont divisées par deux, voire trois. Même chose pour les prix qui sont tombés de 40%. Personnellement, je vais avoir des manques à gagner de plusieurs centaines de milliers de lieva. Et au lieu de les réinvestir dans mon entreprise, je me retrouve renvoyé deux ou trois ans en arrière.
L'entreprise de Tsvetan Tsikov saura survivre. C'est un des plus grands maraîchers bulgares. Beaucoup de ses confrères sont mis à genoux par cette vague de fruits et de légumes qui étaient destinés à la Russie et qui se déversent sur le marché bulgare. Édouard Stoïchev, président de la commission chargée des bourses de commerce.
C'est très grave. Les petites entreprises sont en train de fermer, de supprimer des postes. Et c'est l'effet domino. Les chiffres d'affaires chutent, mais les grandes chaînes commerciales vont bien, parce qu'elles importent des produits européens à des prix très bas, sur des contrats à long terme.
L'embargo russe a exacerbé ces problèmes, puisque les fruits et les légumes européens ont dû trouver de nouveaux acheteurs. Des prix imbattables donc, qui écrasent les maraîchers bulgares. Édouard Stoïchev.
Les producteurs bulgares ne sont plus compétitifs, surtout en ce qui concerne les grandes chaînes commerciales. Ce sont des supermarchés français, allemands, autrichiens. Ces grandes surfaces ne s'intéressent qu'au prix. C'est la guerre des prix entre elles. Et maintenant, elles ont des produits d'importation très bon marché.
Encore plus inquiétant, le marasme commercial semble être sans issue. Les autorités disent avoir les mains liées en ce qui concerne les importations, puisqu'il s'agit de la libre circulation des produits au sein de l'Union européenne. Les subventions agricoles, elles, ne seront à ex aequo avec les grands pays européens que dans plusieurs années. D'ici là, les céréales semblent être les seules cultures bulgares à être bien placées sur les marchés européens.
Bras de fer inédit en Espagne entre la presse et Google. Furieux de l'obligation qui lui était faite de payer pour reproduire les articles, le moteur de recherche a donc préféré fermer son site d'actualité Google News. Tous les journaux européens doivent gérer ce problème, mais tout le monde ne va pas jusqu'à la confrontation et la rupture. Pour en parler, on retrouve Daniel Vigneron, directeur du site d'information myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Alors pourquoi cette fermeture de Google Noticias, la version espagnole de Google Actualité ?
Effectivement, le couperet est tombé la semaine dernière en Espagne. Une décision de Google prise à la suite du vote d'une loi obligeant les moteurs de recherche à payer les éditeurs quand ils reprennent tout ou partie de leur contenu. Or, Google s'y refuse en affirmant ne pas gagner d'argent avec le site Google Noticias, la version espagnole de Google News. Alors c'est la première fois que Google ferme un de ses services en Europe, mais cette fermeture de Google Noticias n'est pas vraiment une surprise, Google ayant déjà brandi la menace à maintes reprises en faisant le pari que les médias avaient plus à perdre qu'à y gagner, Google News leur permettant d'augmenter leur audience sur Internet. Ce chantage avait été efficace ailleurs en Europe, mais les députés espagnols ont refusé de s'y plier et Google a mis sa menace à exécution.
Mais Google ne gagne pas vraiment d'argent avec ses sites d'actualité.
C'est vrai d'un strict point de vue comptable, mais c'est un marché de dupes. La fortune de Google, c'est le clic sur son moteur de recherche et sur sa déclinaison Google News. Des centaines de millions de personnes dans le monde se connectent chaque jour sur Google et Google News. Et à chaque fois qu'ils font une recherche, que ce soit pour s'informer ou pour acheter une paire de chaussures, cela permet à Google de recueillir des infos sur les internautes. Dès lors, les publicités correspondant à votre profil s'afficheront sur votre ordinateur. Vu sous cet angle, Google News, c'est très rentable, quoi qu'en dise Google.
Comme en Espagne, dans plusieurs pays européens, Daniel, les éditeurs de presse accusent Google de pillage. Où en est-on dans ce bras de fer ?
12 ans après le lancement de Google News, les éditeurs de presse tentent au moins d'écorner les règles du jeu édictées par Google. En Allemagne, une loi baptisée Lex Google est entrée en vigueur l'été dernier. Elle oblige Google à payer une redevance aux éditeurs, mais concède que, je cite, « de petits morceaux de texte peuvent être utilisés gratuitement ». Alors, une notion plutôt floue. En attendant que la justice se prononce sur le recours d'un consortium d'éditeurs, Google avait annoncé en octobre qu'il ne reprenait désormais plus que les titres des articles de presse sans photo. La menace s'est avérée efficace. Un mois plus tard, à la surprise générale, le géant des médias allemand, le groupe Springer, a finalement rendu les armes en acceptant que ses contenus soient repris gratuitement. La loi n'a donc encore rien changé dans la pratique de Google en Allemagne.
Et en France ?
En France, les éditeurs de presse plus fragiles financièrement ont préféré la création d'un fonds d'aide aux médias financé par le groupe américain. En contrepartie, ils ont renoncé à monnayer leur contenu, un choix très critiqué par les grands groupes de presse des autres pays européens qui estiment que le deal piloté par l'Elysée est déséquilibré. Le fonds Google, doté de 60 millions d'euros sur 3 ans, est en effet bien maigre car si Google déclare moins de 200 millions de chiffre d'affaires en France, son chiffre d'affaires réel serait de l'ordre de 1,5 milliard. Autrement dit, le groupe américain a acheté la paix avec les éditeurs de presse pour une bouchée de pain.
Et ailleurs en Europe, c'est la paix ou la guerre entre les groupes de presse et Google?
C'est le plus souvent la guerre. Ceci d'autant plus que Google est également attaqué par le Parlement européen pour abus de position dominante. Les eurodéputés ont adopté le mois dernier, à une très large majorité, une résolution proposant de démanteler Google pour séparer ses activités quasi monopolistiques de moteurs de recherche et ses autres services. Autre exemple, en Belgique, les éditeurs de presse ont porté plainte dès 2007 contre Google pour non-paiement des droits d'auteur. En 2011, les juges ont donné raison aux éditeurs. En réaction, Google News a retiré les liens et contenus des médias belges. Finalement, en décembre 2012, les deux parties ont enterré la hache de guerre et ont signé un accord secret, le groupe américain ne souhaitant pas que ce compromis fasse boule de neige en Europe. Le deal est aujourd'hui connu. Google ne paye pas de redevances en Belgique, mais a accepté une indemnisation qui serait de l'ordre de 2 à 3% du chiffre d'affaires de la presse belge. C'est nettement mieux que ce qu'ont obtenu les médias français.
Et ailleurs en Europe ?
Dans les autres pays européens, on tergiverse. Ainsi, en Italie, le précédent gouvernement d'Enrico Letta était favorable à une taxe Google. De plus, le géant de l'Internet aurait été contraint de faire appel à des entreprises italiennes pour commercialiser ses espaces publicitaires. Mais depuis, Matteo Renzi, qui a succédé à Enrico Letta, semble peu pressé de croiser le fer avec Google. Et même en Grande-Bretagne, le magazine The Economist se demandait récemment si le gouvernement ne devait pas mettre fin à la position quasi monopolistique de Google. Mais n'est-il pas trop tard pour se poser la question, Frédéric, alors que plus de 90% des internautes sont accros à Google?
Merci Daniel Vigneron, à très bientôt.
À bientôt Frédéric.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, et sur Facebook. Demain, reportage en Finlande, où les retraités sont de plus en plus nombreux à travailler. Et puis, dans une poignée de secondes, sur RFI, un nouveau journal.